rationalité. Alors la rationalité, avant tout, c'est une propriété de systèmes cognitifs, d'esprits humains ou animaux, mais on va se restreindre dans cette discussion aux esprits humains. Nous exemplifions typiquement une propriété qu'on appelle la rationalité. Et ça signifie que si on imagine que notre esprit est constitué de modules ou de facultés particulières, et que par exemple un de ces modules est dédié à la genèse de nos croyances sur notre environnement ou sur nous-mêmes, et qu'un autre module est dédié à la genèse de nos désirs et de nos goûts, de nos préférences. La rationalité, c'est par exemple une propriété qui découle, qui émerge de la coexistence harmonieuse, de l'interaction positive de ces deux modules. Par exemple, si je crois qu'un certain bien, qu'une orange, par exemple, m'apportera une certaine utilité supérieure à un autre bien, par exemple du chocolat, il est rationnel que je désire consommer des oranges plutôt que du chocolat. Ça, c'est ce qui est rationnel de faire ou de désirer. Ça ne signifie pas que c'est toujours comme ça qu'on se comporte. Et donc l'irrationalité, c'est quand nous agissons à l'encontre d'une interaction positive et harmonieuse entre nos désirs et nos croyances. Plus généralement, la rationalité peut se concevoir comme le respect d'un certain nombre de contraintes formelles, extérieures, comportementales, sur ses croyances et sur ses désirs. Par exemple, une de ces contraintes très intuitives, très naturelles, en principe, c'est que les préférences doivent être transitives. Si je préfère les oranges au chocolat, et si je préfère le chocolat au nougat glacé, alors il est rationnel que je préfère les oranges au nougat glacé. Seulement, on observe parfois des comportements qui sont aberrants au regard de telles contraintes de rationalité. On peut observer souvent des cas qu'on interprétera comme des inversions subites de préférence, sans qu'on puisse vraiment dire que le sujet irrationnel a changé d'avis au cours du temps, puisque ces choses-là se font de manière parfois très subite, très brutale. Par exemple, je peux vraiment dire, exprimer et généralement montrer que je préfère les oranges au chocolat, mais tout à coup, je peux être pris d'une frénésie et dévorer 10 tablettes de chocolat. Alors, ce comportement est qualifié généralement d'irrationnel. C'est Aristote qui est le premier, dans le chapitre 7 de l'éthique à Nicomaque, a parlé de ce type de phénomène, d'aberration par rapport aux contraintes de rationalité. Il a nommé ça la faiblesse de la volonté ou l'acrasie. Et une personne qui est victime d'acrasie, c'est une personne qui non seulement montre un comportement aberrant, mais c'est aussi une personne qui fait l'expérience d'un conflit parfois douloureux entre ses désirs et ses croyances. Et elle agira, cette personne, en fonction de ses désirs, de son désir subi, de sa gourmandise subie, par exemple, en dépit de sa croyance que agir ainsi lui fait du mal à long terme, ne contribue pas à son bien-être à long terme, ne maximise pas son utilité, bien au contraire. Donc cette personne qui est victime d'irrationalité est non seulement victime d'une forme d'irrationalité comportementale, mais aussi elle est le sujet d'un conflit très douloureux entre, finalement, ces différents modules, ces modules de croyance et ces modules de désir. Donc il y a effectivement des incompatibilités, il y a des frictions entre nos modules, et l'irrationalité est parfois le sous-produit de ces frictions. Et la plupart du temps, pardon, le sous-produit de ces fictions. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on échoue de telle manière, quand on échoue à se conformer à une ligne de comportement rationnel? On peut, soit comme le pense Aristote, faire un effort particulier de volonté, essayer de se contrôler, c'est une possibilité, mais on peut aussi envisager d'autres solutions, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors imaginons un autre exemple d'irrationalité qui n'est pas lié à l'acrasie, mais qui est lié à des tentations d'honorer certaines dépenses qu'on a fait dans le passé. Par exemple, imaginez le cas où j'ai payé une place de cinéma à 10 euros et qu'au bout d'une heure, le film m'ennuie prodigieusement. J'ai absolument pas envie, en principe, de suivre ce film, ça m'intéresse absolument pas, mais j'ai payé ces 10 euros et je suis là sur mon siège, aussi dans une situation d'inconfort. Je ne sais pas si je dois continuer à voir parce que peut-être que le film va s'améliorer, et puis aussi je pense au fait que j'ai dépensé quand même une certaine somme d'argent, ou alors quitter la salle et oublier complètement le fait que j'ai payé cette somme d'argent et aller faire autre chose de plus utile pour moi en ce moment. La rationalité, les principes de rationalité, de type économique en l'occurrence, disent que ce qu'il faut faire dans cette situation, c'est absolument quitter la salle. Oublier qu'on a dépensé 10 euros dans le passé, ce qui compte maintenant, c'est ma ligne de conduite présente. Ce que je vais faire dans le futur est maximiser mon utilité maintenant. Alors, imaginons un cas plus subtil qui va combiner cette situation du cinéma et cette situation de la faiblesse de la volonté telle qu'en parle Aristote. Imaginez que voulant me contraindre en quelque sorte à augmenter ma connaissance de l'opéra, ma culture musicale, j'ai pris un abonnement à l'opéra de ma ville sur 10 mois, les 10 mois à venir, et que voilà, de cette manière, je vais, comme dans le cas de la place de cinéma, mais à plus long terme, honorer cette dépense. Je vais donc penser me contraindre moi-même en honorant chaque mois cette dépense que j'ai faite dans le passé en me rendant à l'opéra. Mais bon, un soir venu, finalement, j'ai plus du tout envie d'y aller. Il fait pas beau, je suis chez moi, c'est très confortable, il y a ma série télévisée préférée. Finalement, j'ai très envie de rester chez moi et d'oublier la dépense passée. Ce que nous dit que la rationalité économique, comme dans le cas du cinéma, c'est en fait d'oublier cette dépense passée. Seulement, j'agis rarement comme ça. La plupart des gens qui souscrivent à des abonnements à l'opéra, finalement, au dernier moment, exercent une forme de contrôle indirect sur eux-mêmes, non pas un contrôle direct au sens où ils rassemblent leur volonté et décident de sortir de chez eux, mais pensent plutôt à la dépense qu'ils ont faite dans le passé et que la somme d'argent, mettons 50 euros cette fois qu'ils ont dépensé pour ce spectacle, n'est pas rien, et donc il vaut mieux partir, il vaut mieux sortir de chez soi et aller à l'opéra. Alors, ce qui est très intéressant dans cette situation, c'est que je suis en quelque sorte doublement irrationnel, mais que la combinaison de ces deux irrationalités a produit une forme de rationalité. Pourquoi? Parce que je suis premièrement irrationnel parce que je fais l'expérience de la faiblesse de la volonté. Je suis très fortement tenté de rester chez moi plutôt que d'aller à l'opéra. C'est donc l'expérience habituelle de la crasie, de la faiblesse de la volonté. Et je suis une seconde fois irrationnel parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à cette dépense que j'ai faite dans le passé et à laquelle je ne devrais pas penser si j'étais parfaitement rationnel. Je devrais tenter de maximiser mon utilité maintenant. Au moment présent. Maintenant, on comprend bien que j'ai en fait un plus grand intérêt à aller à l'opéra pour maximiser mon utilité à long terme. Donc finalement, ce qui est rationnel de faire dans la situation, c'est d'aller à l'opéra, mais je fais cela, je finirai par faire cela uniquement parce que j'ai combiné entre elles deux formes d'irrationalité. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça permet de contraster finalement deux visions de la rationalité et de l'irrationalité, une vision qu'on pourrait appeler aristotélicienne, qui est que il y a des frictions entre les modules et les croyances, que souvent je fais l'expérience de la faiblesse de la volonté et que pour en sortir je dois exercer un fort contrôle sur moi-même. C'est une vision intéressante, mais qui est peut-être irréaliste parce que quelle est la source de ce contrôle? Est-ce que ce contrôle fonctionne réellement? Quand je me concentre directement sur quelque chose et que j'essaie de le contrôler, il y a de fortes chances que je n'arrive pas à produire le résultat escompté. On contraste donc cette vision très volontariste de la rationalité à une vision indirecte, qui est celle qu'on discute ici, qui est que finalement nous sommes pétris de toutes sortes d'irrationalités, nous avons des comportements aberrants dans toutes sortes de circonstances et de toutes sortes de natures, mais que globalement la combinaison de ces comportements irrationnels entre eux produit quelque chose de relativement optimal. Par exemple, dans le cas de l'opéra, j'honore les coups passés, ce qui est irrationnel. Je fais l'expérience de la faiblesse de la volonté, mais je vais compenser ma faiblesse de la volonté en honorant les coups passés. Donc j'ai compensé une forme d'irrationalité par une autre forme d'irrationalité, et globalement, je vais maximiser mon utilité à long terme. Donc globalement, je serai irrationnel. Et je crois que le vrai débat sur l'irrationalité et la rationalité se situe dans ce contraste entre une vision volontariste, héritée en partie d'Aristote, et une vision plus spontanéiste, plus autonomiste de la rationalité.